Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Salut Big Ruffy. Aujourd'hui, sujet un petit peu plus inédit parce que vous avez bien vu ces dernières semaines, d'un jour, on était dans les actualités. Et là, avec Big Ruffy, on a vu
une autre manière de dire qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent, quoi.
J'aurais pas formulé comme ça, Big Rusty. J'aurais pas formulé comme ça parce que moi, pour le coup, j'ai trouvé très intéressant le commentaire qu'on nous a envoyé dans une de nos vidéos. De malheureusement, donc il n'y a pas de nom, c'est user, un nom bien caché, pas de photo de profil. Mais donc, du coup, en commentaire YouTube, une proposition de sujet. Parlez-nous des salaires, des coulisses, de la personnalité des combattants. Un exemple, Strickland affirmait à propos de John Jones, c'est un vrai en les. Autrement dit, les combattants sont-ils aussi vertueux que leur image le laisse entendre? La question, notoriété, hype et personnalité sont-elles imbriquées? Bref, vous avez compris. Évidemment qu'on a compris, user RW7OY06.
On dirait le nom du gosse d'Elon Musk, tu sais.
Oh là là,
c'est vrai.
C'est sa faute. Ah bah non, c'est pas ta faute, non, il y a pas de problème.
Tu sais comment il s'appelle? C'est sa fille, je crois.
Oui, c'est sa fille. Bah ils ont tous des Est-ce qu'on est là pour juger les prénoms? Je ne pense pas. Mais allez.
Non.
Donc en tout cas, un sujet un petit peu plus global.
Elle s'appelle X A E A X I I.
Voilà, sujet un petit peu plus froid donc en comparaison aux actus du moment. Donc on va voir un petit peu côté combattant, côté coulisses, côté homme de l'ombre, mais particulièrement puissant du côté de l'UFC et d'autres organisations. Parce que vous allez voir, hein, c'est pas du tout un podcast à charge contre l'UFC, mais c'est plus pour voir qu'il y a bien plus que deux athlètes qui s'affrontent dans le cadre du MMA.
En fait, ce qui va être vraiment... on n'en a jamais beaucoup parlé réellement et qui va être intéressant, c'est vraiment voir les techniques de négociation qu'il y a par les différentes organisations. Et vous allez voir, il y a des moments, c'est hardcore, mais dans le sens où c'est là où on voit que le combattant n'est qu'un pion. C'est pas forcément que, entre guillemets, un humain, etc. C'est quelque chose dont on peut tirer de l'argent, et donc même si le mec est blessé, qu'il peut pas combattre, on lui met des coups de pression quand même. Et ça, c'est pas que l'UFC, hein. C'est tout. Les organisations qui le font, et les organisations majeures en tout cas généralement, et puis même au Pride, vous allez voir les bails de payer en mallette de billets, les Yakuza qui faisaient partie du truc. Enfin, c'est vraiment les trucs en fait que probablement, c'est pas l'histoire du MMA voudrait oublier, mais ça donne pas une bonne image du MMA certes. Mais bon, après, on va vous en parler là, mais je suis prêt à parler que c'est comme dans tous les sports dès qu'il y a beaucoup d'argent, en fait. C'est juste que là, on va vous dire comment ça se passait dans le MMA, quoi.
C'est parti, Big Rusty, générique. Swear. Tu as parlé de l'UFC, est-ce qu'on peut peut-être faire le point sur Monsieur Joe Silva qui a quitté l'UFC il y a quelques années déjà, mais qui est l'une des figures les plus importantes de l'organisation?
En fait, c'est vraiment intéressant parce que ce gars-là, pour ceux qui découvrent le MMA et puis même pour ceux qui sont peut-être fans de MMA, c'est un nom, il a disparu en 2016 à peu près au moment où l'UFC a été racheté par WEAMG, parce que bah voilà, ça faisait 20 ans qu'il était à l'UFC, ce gars-là. Il est parti avec un bon gros paquet de pactole, et c'était le matchmaker de l'UFC. Donc en gros, c'est le gars qui était recruté par l'UFC parce que c'était un ordinateur, en gros, qui connaissait tous les combattants et qu'il avait vraiment un cerveau qui était fait pour l'analyse, la stratégie. Et du coup, il était vraiment... son but, c'était de tout le temps voir à l'avance, trois coups d'avance, lorsqu'il matchait des combattants, lorsqu'il les faisait combattre les uns les autres. Et comme il gérait aussi la plupart des contrats, bah, c'est lui qui, grosso modo, gérait la vie et la carrière des combattants quand ils arrivaient à l'UFC. Il faut se dire qu'en gros, Joe Silva, je crois que la stat, c'était qu'il gérait à peu près 85% avec Sean Shelby des contrats et des combats pour tout l'UFC, le roster, et les plus gros contrats et les trucs les plus importants, c'était Dana White et Frère Fertitta à l'époque, et maintenant Hunter Campbell. Et en gros, ce gars-là, Joe Silva, la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'il était détesté par les combattants, par l'écrasante majorité des combattants. Alors, il était détesté parce qu'en fait, c'est un gars, c'était le hitman de l'UFC. C'est-à-dire qu'il s'en battait les couilles de tes sentiments, de tes émotions, de « oui, mais je peux pas, j'ai une famille à nourrir. Oui, mais je peux pas, j'ai mon gamin. Oui, mais tu peux pas faire ça, je vaux quand même un peu plus. » Joe Silva, c'est le gars, il arrivait, il te proposait des combats. Si tu pouvais pas les prendre, eh ben c'est pas grave, tant pis pour toi. Il utilisait même, et c'est Mehdi Bagdad qui expliquait que lui, il avait une situation, et il en parlait dans notre podcast, où il était blessé. Il avait dit à l'UFC qu'il était blessé, qu'il ne pouvait pas combattre sur une certaine durée. Et en gros, ce fameux Joe Silva, qui était le gars responsable de faire les combats et de les organiser, lui avait dit « mais de toute façon, mec, c'est simple, soit tu combats, je m'en bats les couilles que tu sois blessé, soit tu combats là maintenant, soit t'es viré. » Et c'était que des bails comme ça. Et à l'époque, d'ailleurs, Mehdi Bagdad avait été viré de l'organisation, mais comme il avait fait un tollé, parce qu'il était en mode, bah, ça va pas se passer comme ça, en fait. Du coup, il avait fait un tollé, il en avait parlé à tous les médias qu'il avait pu, etc. Et, bizarrement, il avait été ensuite réengagé par l'UFC. Mais pour vous dire un petit peu comment ça marchait. Et par exemple, je vais vous citer, et donc parce qu'il n'y a pas longtemps, dans le cadre du procès qu'il y a entre certains combattants qui faisaient partie de l'UFC et l'UFC, qui est un énorme procès, ça prend des plombes, ça va prendre des années avant qu'il y ait un verdict final qui soit atteint. Mais en attendant, ce que ça permet d'avoir, c'est des dossiers privés qui sont révélés et qui nous permettent d'en savoir plus sur la manière dont l'UFC opérait. Et donc là, je vais vous citer des mails qui étaient envoyés donc entre les propriétaires à l'époque de l'UFC, les frères Fertitta et Joe Silva, pour vous dire un peu comment est-ce que l'UFC négociait et les tactiques qu'il mettait en place. Là, par exemple, c'était à propos de Nate Diaz. À l'époque, il était payé au lance-pierre de malade. C'était vers les années, peut-être 2013-2014, un truc comme ça. Et dans le mail, Joe Silva dit à propos de Nate Diaz, je lui ai proposé un salaire beaucoup plus bas que ce qu'il pouvait accepter exprès, et c'était une première offre, comme ça je savais que de toute façon ils allaient refuser. Et ensuite il continue, il écrit, donc ensuite je suis revenu avec une nouvelle offre, et qui était, à l'époque c'était 29 000 $ pour combattre et 29 000 s'il gagnait, et ensuite du coup il lui propose sur les trois combats suivants des offres bien particulières, où sur chaque combat il gagne genre 1 000 $ par combat, un truc comme ça, et il finit le mail en disant, et puis de toute façon, s'il refuse mon offre, je m'en fous, je le mets sur les cartes préliminaires contre un mec ultra chaud pour son dernier combat. Et donc en fait, ça c'est une petite partie de, par exemple, comment il gérait les négociations. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune place pour « ouais, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ?» C'est « il faut les payer le moins possible, peu importe leur situation, et on leur met le plus de pression possible dès qu'il y a une négociation. » Et un truc qui avait été libéré aussi, un mail qui avait été libéré à propos de tout ça, c'était la discussion entre Dana White et les frères Fertitta.
C'était à l'époque propriétaire de l'UFC avant la vente à WMAMG. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Joe Silva est même parti, lui, de l'UFC lors de la vente, parce qu'il a pris pas mal d'argent lorsque l'UFC a été revendu pour plus de 4 milliards à WMAMG. Et donc là, on va voir les petits messages qui sont sortis. Et c'est vrai que même Bleacher Report surnommait Big Rusty Joe Silva l'arme secrète de l'UFC. Parce que là, évidemment, tout ce qu'on dit avec Big Rusty, vous le comprendrez aisément, on se met du côté de l'UFC avec ça, du côté des combattants, mais c'est vrai que l'UFC, et c'est tout ce qu'il y a par rapport au procès, ils ont tout intérêt à payer les combattants le moins cher possible et que les combattants soient prêts à tout. Et c'était ce que Joe Silva faisait à merveille pour l'UFC, et c'est pour ça qu'il était qualifié d'arme secrète de l'UFC, parce qu'il était extrêmement discret et il permettait que tout se fasse en soum-soum, avec des méthodes que Big Rusty continue de vous décrire, qui sont peut-être pas ok, mais en tout cas, c'est ce qui a permis à l'UFC d'avoir une croissance fulgurante. Big Rusty, je te laisse poursuivre.
C'est ça. Et un des mails qui avait choqué un peu, il fallait vraiment suivre les articles un peu profonds dans les sites internet et s'intéresser à ce qui n'était pas de l'actualité chaude, mais vraiment vouloir les rentrer dans les détails. Mais ce qui avait choqué du coup les fans hardcore, c'était ce mail de Dana White qui parle à Lorenzo Fertitta. Donc là, il parlait entre boss de l'UFC à propos d'une négociation avec donc les combattants, c'était Gilbert Melendez et Eddie Alvarez, où en gros Dana White dit à Fertitta, Frère, j'adore, donc I love you to fucking death, je t'adore jusqu'à la mort, parce que ce que tu viens de faire là, ce que tu as réussi à faire avec Melendez et l'autre mec, donc il dit Other Dudes, et l'autre mec, c'était putain de badass. C'était du business, en gros, cutthroat, nasty business, donc c'était du business où en gros on met le couteau sous la gorge.
Coupe-gorge
de la... Ouais, c'était du business coupe-gorge quand on, comme on le voit dans les films, donc ça c'est Dana White qui met ça, et Lorenzo Fertitta lui répond... Ce qu'on doit faire, c'est retirer l'oxygène, leur retirer l'oxygène jusqu'à ce qu'ils abandonnent. On a sacrifié trop pour que qui que ce soit ait de la traction contre nous maintenant. Et là, du coup, Dana White lui répond, je suis bien d'accord, t'as 100% raison et j'adore ça. Donc, en gros, on a, donc ce sont les boss de l'UFC à l'époque, Lorenzo Fertitta, qui dit très clairement, à propos des tactiques de négociation, ce qu'il faut, c'est en gros les étrangler jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'oxygène et qu'ils abandonnent et qui, donc grosso modo, se plient à notre volonté. Après, en fait, ça, c'est ce qui avait paru, c'est ce qui avait leaké. Et puis, à côté de ça, il y avait tout un tas de témoignages. J'avais été revoir les articles où tous les combattants disaient, en fait, leur expérience avec Joe Silva, le fameux matchmaker, c'était que... Il était payé par l'UFC pour arriver d'une manière ou d'une autre à faire baisser les coûts. Parce que comme il gérait 80% du roster, c'est-à-dire 80% des combattants de l'UFC, et ils étaient plusieurs centaines, même déjà à l'époque, bah en fait, n'importe quelle négociation de contrat, si tu peux gagner 2 000 $ par-ci, 5 000 $ par-là, 10 000 $ par-ci, bah appliqué à tout le roster de plus de 100, de plus de, bah, même à l'époque, ils étaient peut-être en 2013-2014, déjà peut-être 300, 400 combattants, bah, c'est ça qui fait baisser les coûts pour une entreprise. Et du coup, Joe Silva avait l'aval, bien évidemment, de Dana White, de Lorenzo Fertitta, des boss de l'UFC, pour appliquer des tactiques de négociation les plus dures, les plus froides, et qui pourraient être perçues par nous, par le public, comme inhumaines, dans le sens on s'en bat les couilles de ce qu'ils ressentent les combattants et de leur bien-être. Qu'il faut, c'est les payer le moins possible. Et c'est pour ça que du coup, quand il était parti en 2016, il y a tous ces trucs-là qui étaient sortis, à Joe Silva, et les langues s'étaient déliées. Mais après, comme on le voit là, après, voilà, faut pas, je pense, et là, à mon avis, tu pourras peut-être nous éclairer un peu plus, mais il faut se dire que de toute façon, dans n'importe quelle multinationale ou entreprise qui brasse des centaines de millions par an, et donc là, maintenant, c'est même beaucoup plus, c'est presque obligé, en fait, qu'il y ait des gens comme ça à la tête de ces entreprises. Parce que ce que dit là Lorenzo Fertitta, en mode « on a trop sacrifié pour que qui que ce soit ait de l'attraction contre nous », probablement que c'est ce que pensent la plupart des boss ou des PDG qui sont à la tête de l'entreprise qui vaut des milliards qu'ils ont créé et où ils sont en mode… Et c'est ce que disait John Nash, je crois, dans un article où il parlait justement de cette situation avec Joe Silva. Il disait, en fait, quand ils ont vendu en 2016 les frères Fertitta, l'UFC, à cet énorme groupe qui est WMG, en fait, une partie du pitch avec lequel, du discours avec lequel ils ont vendu l'UFC, apparemment, aux investisseurs, c'était avec notre entreprise, comme on cut les coûts au maximum, dont sur la paye des combattants, vous allez pouvoir faire des profits énormes. Et en fait, ben, comme de toute manière, c'est à ce stade-là, c'est du divertissement, c'est du sport, mais c'est pour faire du profit, ben, en fait, en réalité, c'était rien. Alors, on va voir si le procès est gagné ou pas par les gens qui ont amené l'UFC jusqu'au tribunal, et ça va prendre des années, mais avant que le verdict ne soit rendu, c'est pas illégal a priori ce qu'ils font, c'est juste des tactiques de négociation d'énormes prédateurs, mais comme il y en a probablement dans toutes les entreprises qui n'ont pas affaire à des syndicats parce qu'il n'y en a pas dans les MMA, et donc qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, quoi.
Et Big Rusty, je vais me faire l'avocat du diable once again.
Go, go, go.
Go, 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 parce que évidemment, du côté de Joe Silva, il y a beaucoup de gars qui le détestaient à l'UFC, mais c'est vrai qu'il avait une relation différente avec les superstars de l'organisation. Et c'est toujours ça le problème aussi. Quand on est dans cette situation-là avec l'UFC, c'est que globalement, vous regardez, oui, les cartes de MMA sont plus chargées que les cartes de boxe anglaise, mais sur un roster de 300 athlètes, 700 athlètes comme aujourd'hui, il y en a peut-être que 50 qui valent vraiment de l'argent pour l'UFC. Et sinon, le reste des combattants, c'est des gars qui vont permettre d'avoir une soirée de 12 combats. Mais et c'est ceux qui sont le plus squeezés. Donc vous allez voir en termes de... Enfin, pressés jusqu'à la moelle par ce soit Joe Silva ou d'autres mecs désormais. Mais c'est des gars qui, malheureusement, c'est vrai, sont dans des situations, et souvent avec Big Rusty, on en parle, où, selon nous, en tout cas, la paix des combattants est... C'est compliqué quand vous êtes une superstar type Volkanovski, mais par contre, quand vous êtes quelqu'un où, par exemple, là, je voyais, c'est Gray Maynard qui parlait de Joe ouais. Silva et qu'il était à 42+42, bah, Gray Maynard à 42+42, dans l'absolu, ça reste correct. C'est plus dans des situations où vous avez un Dan Hardy qui va faire son combat pour le titre et à la fin, il lui reste $5,400 quand il affronte Georges Saint-Pierre. 24 000, je crois, il était payé en fixe. Vous vous dites, là, il y a un problème. Mais pour beaucoup de combattants, ils ont un salaire qui est relativement OK. Et donc, OK, ils vont être complètement mis sous pression par l'UFC, par le management and co. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour eux aussi. Donc oui, c'est un truc qui est un peu compliqué parce que vous vous dites, ils mériteraient d'avoir un salaire un peu minimum comme ce qu'il y a en NBA, NFL & Co. avec tous sont dans de bonnes situations, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Et là, petite parenthèse Big Rusty par rapport à ça, c'est LeBron James qui a lancé son podcast où il parle purement basket avec JJ Redick. Et par rapport à ça, il parlait d'un joueur NBA qui pouvait faire, Rajon Rondo, qui pouvait faire sa transition en NBA. Ils expliquaient pourquoi le gars n'était pas devenu coach. Et il y a JJ Redick qui est ancien joueur, il disait, c'est le truc qui est compliqué aussi. Quand vous coachez des joueurs NBA, c'est comme on est tous trop payés, tous multimillionnaires. Au-delà de la tactique, c'est hyper compliqué de faire entendre à des gars qui sont hyper bien installés, peu importe leur statut, parce que même si vous êtes remplaçant NBA, le salaire minimum, je crois que ça reste 2 millions par an, donc vous êtes très 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 bien, bah de dire à ce gars-là, tu vas faire ce que je te demande. Alors que quand vous êtes à l'UFC, c'est pas du tout un exemple, et c'est, je fais pas la promotion de ça, quand vous avez des gars qui sont à 10+10, bah forcément, ils vont être un petit peu plus conciliants. Donc je sais pas si on voulait poursuivre sur Joe Silva, Big Rusty.
Bah, à la limite, juste exactement pour faire écho à ce que tu viens de dire sur le fait que bah, continuer de les garder un peu genre de les garder comme des animaux qui ont faim. Je sais que c'est pas l'image du tout qui est appropriée, mais c'est parce que ce sont il y a pas l'image des animaux, mais c'est en gros ce que vient de dire là. Je vais vous lire ce que disait justement Gray Maynard à propos de cette situation. Il disait à propos de tout ça, je pense que c'est délibéré ce qu'ils font. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ils veulent garder les combattants pauvres parce que ça les garde dans un état où ils ont faim. Et comme de toute façon, ils ont réussi ça sans qu'il n'y ait de conséquences pendant toutes ces années, bah, ils te payent avec un système de pourboire comme si tu étais un stripper ou un truc comme ça. Et du coup, l'auteur de l'article continue en disant « Le système dans lequel les combattants se sont retrouvés, ça ne s'est pas développé par accident. Et même quand l'UFC est devenu extrêmement profitable et aurait pu se permettre de payer plus les combattants, une partie du travail de Joe Silva semblait être de garder ses coûts les plus bas possibles et de garder les combattants les plus compliant, qui se plient à la volonté de l'organisation. » Donc en gros, c'était au-delà du matchmaking, c'était ça le job de Joe Silva, c'était de garder les combattants entre guillemets à la merci de l'UFC. Et je finirai sur ce truc-là qui était aussi intéressant et on n'en parle pas souvent, c'est dans un autre article de Sports Illustrated, il parlait de, tu sais, des bonus de vestiaire. Et en gros, bah, c'est une autre manière, en gros, de garder le contrôle sur les combattants parce que du coup, le combattant est un peu dépendant de ton bon vouloir. C'est si on aime bien ce que tu as fait, on va te filer un petit bonus financier. Et du coup, lorsque Joe Silva parlait, alors c'était lors du procès, d'ailleurs, je crois, à propos de l'UFC, etc., il disait, Joe Silva, oui, il y avait aussi d'autres bonus. Et ce qui n'était pas discuté parmi les bonus de Fight of the Night, KO de la Night, etc. Et je pense que c'est à ça que vous faites référence, parce que là, ils sont dans le cadre d'un procès. Et pendant une longue période, c'est ce qui se passait après que le show, que l'événement se soit passé. Donc, le lundi d'après ou dans le début de semaine d'après, je résumais ce qui s'était passé dans les combats exactement lors de tous les combats à Dana White, Lorenzo, Sean Shelby, etc., qui étaient en gros les têtes pensantes de l'UFC. Et puis, qui avaient même pendant les events, en fait, ils ont d'autres choses à faire, ils gèrent d'autres choses, donc ils n'ont pas le temps de voir tous les combats. Et donc, Joe Silva, c'était celui qui gardait l'œil sur absolument tout ce qui se passait pendant les combats, comment réagissent les combattants, ce qu'ils gagnent, qui perdent, comment ils font, comment machin. machin. Et donc là, Joe Silva continue. Et voilà ce qui se passait. Voilà ce qui se passait pour chaque combat. Voilà, du coup, l'argent qui n'était pas distribué, en tout cas, qui était séparé de Fight of the Night, bonus, etc. Et voilà les bonus extra, les bonus supplémentaires que je pense que ces gars valent. Et je faisais des suggestions. Ce gars-là, par exemple, il a combattu, mais il a fait un bon combat, il a fait ça. Donc, moi, je pense qu'il devrait gagner un extra 3 000 $. Ce gars-là, je pense qu'il devrait avoir un extra 10 000 $. Et puis que je faisais toute la carte et chaque combat de cette manière. Et alors, Dana White et Lorenzo Fertitta regardaient ça, ils m'écoutaient et ils décidaient est-ce qu'ils étaient d'accord avec moi, est-ce qu'ils voulaient lui donner plus ou moins. Mais ça n'avait rien à voir avec les bonus de KO de la soirée, performance de la soirée, c'était des bonus différents. Et donc ça, c'est lorsqu'il parle des bonus de vestiaire. Et c'est pour vous, on ne sait pas si ça a encore cours aujourd'hui, parce que ça, c'était avant 2016, mais... comme Dana White est encore là et puis qu'on sait que voilà, ce sont des tactiques de négociation au plus haut niveau et quand il y a autant d'argent en jeu, il est possible très largement, très possiblement, merde, c'est quoi c'est tout à fait possible que ça continue d'avoir cours ce genre de pratique, voilà ce que je voulais dire, et ça vous donne vraiment une idée de comment est-ce que c'est articulé. Il y a ce qu'on voit, il y a les stars qui gagnent beaucoup d'argent et il y a dans le ventre de la bête, comment ça se passe? Comment est-ce que tu gardes des combattants à ta merci? Et ça se fait par tout ce genre de pratiques.
Et pour terminer sur l'UFC Big Rusty, ce qu'on voulait ajouter, c'est que oui, là, on leur a un petit peu tapé dessus. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces fameuses trois lettres UFC, on l'a déjà dit plusieurs fois, 95% de l'argent généré dans le monde du MMA, c'est avec l'UFC. Et que oui, il y a certains athlètes, on peut dire qu'ils sont sous-payés, mais dans la grosse majorité, soit leur juste valeur, ou soit grâce à l'UFC, les Kamaru Usman, les Volkanovski, je n'ai pas d'autres exemples en tête, Big Rusty, mais tu dois sûrement en avoir, ils sont devenus des stars grâce à l'UFC, et ils atteignent des salaires qu'ils ne pourraient jamais avoir dans n'importe quelle autre organisation. Et on le voit bien avec Big Rusty, on en parle assez souvent, quand il y a des gros talents qui sont au Bellator ou au PFL, on vous dit, si ce mec-là était à l'UFC, on entendrait beaucoup plus parler. Parce que l'UFC, pour certains gars qui n'ont pas le côté trash-talking d'un Sean O'Malley, d'un Israel Adesanya, d'un Conor McGregor, ça leur permet d'avoir cette légitimité sportive et tous les salaires qui font que ils vont avoir un niveau de vie extrêmement confortable. J'ai même envie d'ajouter un Brandon Moreno, tu vois, qui est devenu une superstar grâce à l'UFC également.
Ben c'est ça, en fait, c'est pour contrebalancer ce qu'on a dit sur le fait qu'effectivement, il y a des techniques de négociation ultra hardcore et qui maintiennent la majorité des gens dans une situation où ils galèrent et pour certains, ils sont même obligés d'avoir un second travail en plus d'être à l'UFC. Ça, c'est clair que c'est révoltant parce que l'UFC aurait normalement, ils ont l'argent sans aucun problème pour changer leur vie et au moins augmenter un peu les standards. Ils le font pas parce que rien ne les oblige à le faire et que comme ça, ils augmentent leurs profits. Mais effectivement, à part les gars qui leur rapportent véritablement de l'argent, qui eux, pour lesquels c'est vraiment encore plus honteux, comme les McGregor, les Adesanya, etc., qui eux, comme ce sont eux qui font les pay-per-view qui marchent, qui sont entre guillemets les stars qui font vivre l'UFC aussi médiatiquement, eux, c'est clair que du coup, ils rapportent beaucoup et qu'ils n'en retirent qu'une petite fraction. Mais... des gars, donc tu citais Volkanovski, des champions comme Valentina Shevchenko, des...
Et même, Benoît Saint-Denis et Cyril Gane, dans nos contrées à nous.
Ouais, qui sont des gars qui mériteraient de gagner plus ?
Dans le sens, qui sont des gars qui, grâce à l'UFC, sont devenus de véritables superstars, tu vois.
Oui, ouais, absolument, parce que, effectivement, quand t'es à l'UFC, et même pour tous les autres combattants, quand t'as été à l'UFC et que tu es soit viré de l'UFC, soit il ne renégocie pas ton contrat, etc., tu gagnes plus d'argent après parce que tu es estampillé UFC et comme battre quelqu'un ou combattre quelqu'un qui a été à l'UFC, pour les organisations secondaires ou mineures, entre guillemets, c'est une marque de prestige, effectivement, c'est quelque chose qui crée de la valeur. Mais pour suivre ce que tu disais, Valentina Shevchenko, des Brandon Moreno, Pantoja, etc., comme ce ne sont pas eux qui vendent, qu'en réalité, quand tu fais des cartes, ils sont champions, ils gagnent des 500 000, ils gagnent des points de pay-per-view, etc., ils gagnent très bien leur vie, et ils ne seraient jamais payés autant ailleurs, probablement. Et ça, effectivement, c'est grâce à l'UFC aussi, pour dire que tout est un équilibre. Et pour tous les gens qui pourraient nous dire « Attendez, mais les gars, vous foutez du monde », le PFL est en train de prouver que tu peux payer les gars à leur juste valeur. Alors, nous, évidemment,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on souhaite. On est juste en train de se mettre du côté de l'UFC qui est en mode bah, si rien ne les oblige, eux ils calculent froidement. Maintenant, à voir si en faisant ça, c'est-à-dire qu'ils vont payer des millions Francis Ngannou, ils vont payer très très bien énormément de combattants qui peut-être ne rapportent pas, entre guillemets, ne leur rapportent pas autant d'argent. Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est durable? Et est-ce que, en dehors des levées de fonds qu'ils vont faire, est-ce que c'est quelque chose qui, de façon indépendante et tout seul et sans levée de fonds, peut générer du profit? Bah, rien n'est moins sûr en fonctionnant comme ça aussi.
Est-ce qu'on n'a pas des choses à dire à propos du One Championship? Parce que c'est vrai que là, vous allez vous dire, ah, les gars, vous êtes en train de taper sur l'UFC. Est-ce que toutes les autres organisations, l'herbe est-elle plus verte ailleurs? Bon, bah, du côté du One FC, visiblement, bah, ils ont pris un peu exemple sur d'autres ligues.
En fait, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est... L'UFC, c'est l'organisation numéro un, donc forcément, on en parle plus. C'est comme ça que fonctionnent les médias, et forcément. Mais effectivement, le ONE FC, rien que, je vais vous donner juste une ligne parmi les contrats qu'ils font avec l'UFC. Et cette ligne, c'est que, par exemple, tu n'as pas le droit de mal parler de l'organisation. Ça, c'est une des lignes du contrat, par exemple. Et en fait, ça, c'est simplement pour vous donner un peu ce côté original en mode, attends, quoi? Dans le sens, ça, c'est du contrôle, forcément, de ce que tu dis. C'est du contrôle de ton langage lorsque tu es à l'intérieur de cette organisation et que tu es sous contrat avec eux. Mais il y a aussi tout ce qui se passe avec, effectivement, les contrats. Ils sont propriétaires de ton image. Même si tu décèdes, ils restent propriétaires de ton image. Alors ça paraît spectaculaire quand on le dit comme ça, le fait qu'ils restent propriétaires de, ils font ce qu'ils veulent avec ton image, même potentiellement après que tu décèdes. Mais ça, on en parlait avec Guillaume, du coup, juste avant le podcast. Ça paraît spectaculaire, mais en fait, c'est peut-être pas si déconnant, de la même manière que, enfin, je ne sais pas, on n'est pas spécialiste S-loi, mais de la même manière que, par exemple, quand quelqu'un, je ne sais pas, un chanteur ou quoi que ce soit, il a toutes ses œuvres, même lorsqu'il décède, bah, du coup, ça ne va pas dans le domaine public direct. Je ne sais pas si la comparaison est judicieuse, mais ça me semble un peu être de cet acabit-là, tu vois, ce pourquoi ils ont ce raison, pourquoi tu te marres.
Rien. J'aime trop le... Je sais pas si la comparaison est judicieuse, mais let's go, allons-y.
Mais balançons-la quand même.
Mais non, oui, on est entièrement d'accord avec toi. Pour le coup, on sait pas trop, mais ça ne m'étonnerait pas que, enfin, tu vois, même que ce soit dans les films, les choses comme ça, à chaque fois, même si après la disparition de l'acteur, bah, le nom continue d'être exploité. Par exemple, là, il y a le remake de Roadhouse qui sort, Patrick Swayze, on en parle tout le temps, donc je pense qu'à mon avis, il doit y avoir beaucoup de choses de ce type-là dans les contrats, même dans d'autres domaines. Et donc, du coup, ouais, du côté du ONE FC, Big Rusty, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'avaient frappé dans le contrat qui avait leak, qui était le contrat d'Adriano Moraes?
Ben, il y a d'autres trucs. Pareil, je sais pas, ça paraît spectaculaire, mais il y a le fait que ONE peut utiliser l'image de l'athlète à jamais, et c'est marqué, et l'athlète ne pourra pas les arrêter ou ne pourra pas laisser personne les arrêter. Ça fait flipper. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais en fait, il y a tout ce... De toute façon, enfin, ça, c'est sur un article de Sports Illustrated, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Les athlètes ne sont pas permis de parler du contrat publiquement sans la permission du ONE. Bon, ça, c'est normal. Que ce soit ça ou que ce soit la manière dont le ONE FC aussi. Mais ça, c'est intéressant. Tu vois, gère toute son image par rapport au fait que, bah, tout le, il faut, en gros, comme c'est quelque chose qui fonctionne sur créer des levées de fonds et réussir à intéresser le plus d'investisseurs possible, il faut montrer, ou en tout cas faire croire, mais ça, bon, toutes les ligues le font, mais en tout cas le plus possible, que ta ligue va dépasser l'UFC, que c'est la plus grosse ligue de tous les temps, que, et ça c'est pareil, on ne sait pas sur quoi ça repose, et il semblerait, et alors ça par contre je crois que ça a été prouvé, donc je dis ça, mais je crois que ça a été prouvé, qu'en gros le ONE FC par exemple perd énormément d'argent en fait, et qu'il n'arrive pas à être profitable, mais au point où c'est un gouffre financier. Mais ben, malgré tout ça, du coup, il y a des stratégies aussi, des techniques de communication pour faire croire que c'est le truc le plus profitable, que c'est l'organisation qui a le plus de succès, que c'est... Et ça, ce sont vraiment des choses qui sont des cas d'école quand vous y intéressez de près. Et voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qu'on pouvait dire à propos de Luwan?
Non, c'est terminé pour nous, Big Rusty. On peut poursuivre peut-être avec une organisation asiatique, enfin, qui n'existe plus, rachetée par l'UFC depuis. C'est le Pride. Pride, qui est l'une des organisations les plus iconiques, j'ai envie de dire, de l'histoire du MMA. Et bon, bah là, vous allez voir aussi bien dans la fin du Pride que dans la gestion de l'organisation, il y avait des choses où là, bon, on franchit peut-être une étape.
Bah, je sais pas si c'est illégal ou pas, mais si je vous dis, ils payaient les mecs en les faisant venir dans une pièce, et dans cette pièce, t'avais des gardes du corps, un comptable comme dans un film, et le président du Pride, Sakakiraba, qui était à la table, et sur la table, qui j'espère avait des pieds solides, t'avais des montagnes de billets. Et en fait, c'est Mark Hunt, bah attends, je vais vous lire son témoignage, parce que pour les coups, je l'ai gardé, et c'est quand même, ça n'a pas de prix. Donc voilà. Mettez-vous à la place de Mark Hunt, qui était un poids lourd, qui combattait au Pride. Il faisait partie des gars qui étaient les valeurs sûres parce qu'il était toujours spectaculaire. Il mettait des KO, etc. Et il avait raconté cette histoire de, à un moment donné, où il était, il fallait qu'on lui parle de sa paye. Il fallait que les gars qui étaient responsables, qui le géraient, en tout cas, et à qui il parlait au Pride, géraient sa paye. Et du coup, il disait, après le combat contre Nishima, j'ai été appelé dans une suite d'hôtels et c'est là que j'ai vu Fedor Emelianenko, le champion russe, sortir de cette pièce dans laquelle je m'apprêtais à rentrer. Désolé, hein, si je bug, c'est parce que du coup, je suis en train de le traduire en même temps. Je commence à regarder un petit peu ce qui se passait et puis j'ai une petite discussion avec Fedor dans le couloir et je lui demande du coup, qu'est-ce qu'ils ont pour moi en fait, que je vais entrer dans cette pièce. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous donnent en fait, qu'est-ce qu'ils donnent. Et là, Fedor a levé les épaules et il a fait, je sais pas, mais en tout cas, ils avaient ça pour moi. Et en tenant un sac, et donc en fait, c'était un sac rempli de cash, un sac rempli de billets. Et c'est comme ça qu'était payé, Fedor. Et du coup, Mark Hunt continue. Quand je suis rentré dans la pièce, j'ai trouvé Sakakarabasan, donc en gros le patron du Pride. Quelques gars qui étaient grosso modo des gardes du corps, du muscle, et puis un Coréen qui faisait comme si c'était lui qui était responsable de tout ça, et aussi dans cette pièce où était une table qui galérait à soutenir de son poids des piles énormes et géantes de billets bien organisés et bien rangés. Et Sakakiraba du coup dit à Marc, comment ça se passe Marc, comment ça va? Et du coup, Marc lui répond, j'irais beaucoup mieux si j'avais une partie de ça, dit-il en pointant la table. Et donc là, je finis ce témoignage. Et donc là, Sakakiraba, le patron du Pride, lui répond, t'en veux? On peut aussi te payer en cash si tu préfères, Marc. Et du coup, Marc continue en disant, tu m'étonnes, ils auraient pu me payer pour mes 10 prochains combats et ça n'aurait pas fait un espèce de pli dans cette pile de billets tellement il y en avait. Mais j'ai décliné néanmoins. Les Russes aimaient bien être payés en cash, mais je me suis dit que ça allait être une galère sans nom si j'essayais d'expliquer aux douanes en Australie pourquoi est-ce que je me ramenais avec des caches remplies de billets. Et voilà. Et en gros, il dit, et il finit, c'est la fin de ce témoignage, mais il dit, et c'est dans cette chambre d'hôtel que j'ai eu une petite preview, que j'ai pu voir en avance pourquoi est-ce que le Pride allait s'écrouler. Mais à l'époque, je me concernais même pas de ces petits arrangements sombres dans les organisations, dans les coulisses et des deals qui étaient faits. Je me concernais juste du gars qui était en face de moi dans le combat. Et voilà. Et après, il termine comme ça son témoignage. Mais pour vous dire comment ça se passait au Pride, c'est-à-dire que là, on a parlé de techniques de négociation extrêmement dures, de contrats extrêmement complexes dans lesquels tu peux te retrouver piégé et à jamais potentiellement quand tu es combattant. Avec le Pride, mais tout ça étant vraisemblablement légal, mais avec le Pride, on passait un stade qui était le stade de « on est grosso modo dans un film de John Woo en fait ». Ça parle de tables remplies de billets, ça parle de mecs avec des lunettes de soleil qui disent qu'on va te payer. Et donc… Et ça, c'est quelque chose que tous les combattants disaient, en fait, mais personne n'était dupe. C'était presque accepté que, en fait, de toute façon, au-delà de ce témoignage qu'on vient de vous donner, le Pride, en fait, était contrôlé et gangréné par la mafia, par les Yakuza, par la mafia japonaise. Et il y a des témoignages, dont par exemple celui du manager de Crocop, là, que je vais vous lire, où en gros, c'est un témoignage très court, mais qui explique un peu. Il décrivait dans des interviews, en fait, c'était tellement gangréné de Yakuza qu'il y a un moment en 2003 où le Pride a changé de propriétaire et donc forcément, ça fait des batailles pour le pouvoir, etc. Et à ce moment-là, du coup, le manager de Crocop, de Mirko Crocop, légende des sports de combat, disait on s'est retrouvé à un moment donné devant le Tokyo Dome et il y avait entre 100 et 200 Yakuza armés de deux groupes qui étaient grosso modo en train de se regarder comme si ça allait être une bataille en ligne et que ça allait être la guérilla totale. Et ça m'a marqué, et je le dis simplement parce que du coup, ça paraît tellement fou quand on décrit des images comme celle-là qu'on se dit ça peut pas être possible. Et ben le Pride, si, c'était ça. Et pareil, il y a tous les témoignages de, comment s'appelle-t-il, qui a combattu contre Randy Couture, qui est connu, enfin une des légendes du MMA, Inoue, Enson Inoue. Et dans les podcasts avec Joe Rogan, Enson Inoue, vraiment, il était dedans. C'est-à-dire que lui-même, il a des amis Yakuza, il sait comment ça se passe. Et lui-même, en gros, expliquait que c'était complètement gangréné par la mafia, en fait, le Pride. Et très probablement que c'est la même chose pour beaucoup d'organisations, que ce soit en Russie, autre part en Asie, mais dans tous les continents, en Europe, au Brésil, aux États-Unis. C'est simplement que le Pride, pendant des décennies, ça a été l'organisation numéro un au monde. Parce que quand le Pride était au top, en fait, l'UFC, ils étaient toujours en train de galérer parce qu'ils faisaient pas de profit, parce que ils étaient en train de se la mettre contre des gouverneurs qui voulaient pas laisser passer le sport parce qu'ils considéraient que c'était des combats de chiens, etc. À l'époque où il y avait toute cette galère pour l'UFC, celui qui brillait, l'organisation numéro un, c'était le Pride. Et pourtant, il fonctionnait comme ça. Ce qui est quand même hallucinant, quoi.
Et dernier volet, Big Rusty, de ce podcast, et pas des moindres, c'était ce qui avait été noté dans le commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des choix de sujets comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas du tout pensé, nous, en faire un podcast de ce type-là, c'était par rapport aux combattants et la personnalité des combattants, notamment John Jones, où il y a Sean Strickland là qui a sorti un peu le lance-flamme à l'encontre de John Jones. Mais avec John Jones, moi, de mon côté, Big Rusty, peut-être que t'es pas d'accord avec moi, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que il est passé, en l'espace de quelques années, de genre idéal, de gentil John Jones a, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est parfaitement en paix avec son côté bad boy. Il sait qu'il est méchant, il sait qu'il aime la fête, il assume, j'ai l'impression, tous ses déboires. J'ai en souvenir notamment la fameuse conférence de presse avec Daniel Cormier où il lui explique je t'ai battu après un week-end de cocaïne. Et donc Big Rusty, on va faire le point là-dessus, mais c'est vrai que la sortie de Sean Strickland, je trouve qu'elle est, elle apporte pas grand-chose, parce que c'est pas comme si les gens ne le savaient pas aujourd'hui, enfin dans les fans qui sont avisés. Peut-être que les nouveaux qui suivent le sport de loin ne sont pas au courant, mais pour moi, ça fait partie des choses que les gens savent.
Ah oui, pour moi aussi. Le fait que John Jones ait fait les pires saloperies possibles, mais vraiment au point où ça va très très loin par rapport à ce qu'il avait fait avec sa femme devant ses enfants, au fait que... après, il y a ce qu'il a fait aussi sur avec tous les drug testing, enfin le fait qu'il ait raté des tests.
Surtout le délit de fuite pour moi.
Le délit de fuite où il est rentré dans une femme enceinte, puis il s'est barré et en fait il est revenu chercher, je crois que c'était une pipe à weed ou alors du cash, je sais plus, pour se barrer ensuite. Enfin... John Jones, il y a eu un moment dans sa carrière où, et c'était vraiment intéressant, où il essayait effectivement de faire c'est pas de la ressource humaine, je sais pas comment on dit, mais il essayait de faire croire à tout le monde que c'était grosso modo le gendre idéal, le fils prodigue.
Quand il avait Nike et Gatorade en sponsor, ce qui est historique pour un combattant.
Et il a tout perdu à cause de ses déboires judiciaires et, maintenant il ne s'en cache plus, quoi que j'ai envie de dire. Honnêtement, après son combat contre Cyril, du coup, je crois que oui, j'étais là dans la salle de presse, je crois que c'était ça. Et en gros, il avait recommencé à faire ses trucs avec c'est My Lord and Savior Jesus Christ ou je sais pas trop quoi. Enfin, en gros, des bails en mode jouer le bon samaritain et jouer
la
personne
qui dit qu'il ne sait pas ça. Mais ça marche. Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne sait pas
ça? Parce que ça marche une fois, mais pas cinq. C'est l'histoire de Pierre et le loup, ça. Donc. C'est pas autant pour dire qu'il n'y arrivera jamais et que. C'est quand même Daniel Cormier qui avait prononcé la phrase. De toute façon, il est pourri jusqu'au trognon, jusqu'au noyau. Il ne s'en sortira jamais. Je sais pas si c'est le cas et on lui souhaite pas. C'est toujours mieux de souhaiter quand même à un être humain, quoi qu'il ait fait, qu'il soit pour la société et le bien commun, qu'il devienne beaucoup plus. Profitable pour les autres, dans le sens que ça puisse de... Non, mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire les choses, mais que on ne peut que souhaiter à qui que ce soit que, un, il ne fasse plus rien comme saloperie et qu'il devienne un plus pour son environnement, la société, etc. Donc on ne peut que souhaiter ça à John Jones, mais en tout cas, le fait est que Il semblerait que le nombre de fois où il a fait des trucs de fou, il nous a dit c'est la dernière fois, je suis un homme changé, et où il fait des trucs de fou la semaine d'après, nous pousse à croire que c'est compliqué de se dire qu'on a un homme changé, quoi.
Et donc il y a des gars qui sont comme Sean Strickland, qui eux sont complètement les mêmes personnes entre le Sean Strickland de la vie publique et vie privée, et il y a des gars différents, évidemment, comme Colby Covington, on voulait en parler parce que c'est pas comme John Jones où il y a des déboires judiciaires, des choses qui sont très graves, mais c'est vrai que il y a vraiment le Colby Covington qui apparaît depuis ce qui s'était passé au Brésil, on en parle souvent avec Big Rusty, le combat où il s'impose contre Demian Maia, et là on a le bad boy Covington qui lui a permis, parce qu'il était à ça de se faire virer par l'UFC, qui lui a permis aujourd'hui d'être l'une des plus grosses superstars, mais qui n'a rien à voir avec le Colby Covington qui est en dehors des caméras.
Ouais, c'est ça, c'est devenu un cas d'école, quoi. C'est devenu le cas d'école de comment est-ce que te transformer grosso modo en, j'allais dire en ordure, mais enfin, je sais pas, c'est peut-être pas too much. Non, mais dans le sens, lui-même, je pense qu'il se qualifierait pas comme quelqu'un de bien par rapport à ce qu'il fait publiquement, tu vois. D'insulter des pays en entier, d'insulter tout, c'est. Enfin, de sortir quand même en conférence de presse, lever la main ceux qui ont baisé la femme de Ian Gary. Enfin, tu vois, je pense pas que tu puisses dire que t'es quelqu'un de correct et faire un bail comme ça, tu vois. Donc, c'est pas quelqu'un. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien au fond, mais en tout cas, clairement, il peut pas dire « là, j'essaie de faire les choses bien », tu vois. Donc, c'est devenu un cas d'école, Colby Covington, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, de quelqu'un qui s'est dit « bon, soit je perds mon taf, soit, ok, je deviens, je mets le masque d'une ordure et je gagne de l'argent comme j'en aurais jamais gagné, je garde mon taf et je reste dans la lumière et je fais peut-être ce que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire parce que même s'il les a perdus, il a combattu deux fois, trois fois pour le titre, ce qui ne serait jamais arrivé si il ne s'était pas transformé en ordure après ce combat. Mais non, mais ça te choque ou pas quand je dis ça?
Moi, non, ça me choque pas.
Je pense que lui-même, il est conscient, tu vois.
Ah oui, t'as raison, t'as à 100%.
Pourquoi tu rigoles alors?
Parce que tu fumes. Et là, je mets le masque de l'ordure et je me transforme en ordure.
Ordure man. Bah ouais, mais voilà, c'est devenu, oui. C'est devenu un cas d'école. Quoi.
Ah mais 100%, c'est pour ça qu'on voulait le mentionner. En tout cas, voilà, c'est terminé pour ce podcast un peu différent d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de podcast. Le dernier qu'on avait fait, Big Rusty, et en vrai, j'avais pas mal apprécié celui qu'on avait fait sur justement Sean Strickland, tout le trash talking et l'homme derrière le combattant. Et on a vu des bons retours là-dessus. Donc voilà, si vous appréciez, n'hésitez pas. Ciao.
Ouais. Bah, et le dernier point avant qu'on fasse les shout-outs, c'était sur ce qu'on espère qu'il nous arrivera pas, mais bon, bah, en tout cas, c'est arrivé par exemple à Ariel Wani, c'est qu'il y a aussi des bails où Ariel Wani, qui est le plus grand journaliste du monde en termes de MMA, bah, il est tout simplement banni de l'UFC. Alors, pas son média, parce que le média MMA Fighting a... Ça veut dire quoi?
Non, je vais faire un coucou en mode on est là, nous... Ah. On n'a pas de problème.
Ouais. Mais oui, mais en tout cas, effectivement, son média n'est absolument pas banni de l'UFC. On les voit tout le temps quand on y va. Mais lui a été banni de l'UFC par Dana White en personne, qui a dit « Moi vivant, il ne refoutera jamais les pieds dans un de nos événements ». On rappelle qu'ils peuvent largement, il n'y a aucun problème. C'est une compagnie privée, donc ils peuvent décider de qui rentre, qui sort, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, dire et aussi que bah, pour... quand il veut, il fait des trucs comme ça, Dana.
Mais pour un truc en particulier, ça, je sais pas. J'ai une position particulière avec ça parce que oui, ça faisait plaisir aux fans. En gros, le truc qui a causé sa perte à Eloni, c'est d'avoir leaké le retour de Brock Lesnar à l'UFC 200. En gros, l'UFC préparait le trailer et tout. Littéralement, le truc sortait 20 minutes, 30 minutes avant son tweet. Et il a tweeté, Brock Lesnar revient, et c'est ce qui a fait péter un câble à l'UFC parce que Brock Lesnar était revenu à la WWE. Enfin, c'était un événement que le gars revienne. Et l'UFC a pété un câble là-dessus. Et je peux dire que je comprends l'UFC parce que c'est... bon, bannir le plus grand journaliste au monde, c'est dur. Mais je comprends que les mecs aient eu le seum, tu vois. Parce que quand tu
penses, okay,
oui, parce qu'en plus le trailer était incroyable. En gros, si vous vous souvenez, ils annoncent tous les combats de l'UFC 200, donc il y a que des bangers. Et ça se termine par fin de la bande-annonce avec Bruce Buffer qui dit « It's time ». Et là, il change de visage et il y a Brock Lesnar. Donc en plus, même le trailer était fait d'une manière où si vous ne restiez pas jusqu'au bout, vous ne voyez pas le truc de fin. Donc, enfin, vous voyez pas le gros... comment ça s'appelle c'est quoi le nom pour cet élément-là, Big Rusty? Tu sais, le terme où t'as le... Tu sais, l'élément de fin dans un film.
Le climax?
Le climax, exactement. Climax, ouais. Ouais, ça, le...
Je crois.
Ouais, le climax. Ouais. Et cliffhanger, ça n'a rien à voir, non? C'est quoi le cliffhanger?
Non, cliffhanger, c'est quand tu laisses justement quelqu'un sur la béquille.
Ouais, non, mais
j'ai rien dit.
Je sais, mais regardez-le. Quand il fait son petit sourire en coin comme ça, il est en même... Oh, quel teubé, lui. Donc, c'est ça.
Non, mais le cliffhanger, c'est...
C'est ça.
C'est genre, t'es à la fin d'un film.
Ouais.
Les deux protagonistes, le héros et, et l'ennemi sont face à face. L'ennemi vient de réussir à défaire le héros. Il est comme ça avec son katana. Il est en mode, et là, je vais buter mon pote.
À suivre.
Écran noir.
Voilà. Ouais. Donc, bref. Donc, en gros, le climax arrive en toute fin de trailer. Donc, en plus, ça ajoute au truc. Et donc, bref, ils avaient eu le seum, particulièrement l'UFC, ce jour-là. Big Rusty, donc, on a terminé.
Ouais, on a terminé. En une seconde, on peut mentionner le fait que bah, y avait aussi quand même des trucs. Parce que tout ce qu'on a dit là sur l'UFC, c'est des trucs comme quoi c'était totalement légal. Il y a des trucs aussi pour lesquels, mais ils sont en train, je crois, de gagner contre Mark Hunt avec ça. Où tu sais, il y avait Brock Lesnar donc qui était revenu.
Ils ont gagné.
Et il y avait
ils
un truc
gagné.
Très bizarre qui s'était passé. Ils ont gagné, voilà.
Oui.
Donc le problème, c'est qu'ils ont gagné contre Brock Lesnar, donc on peut pas vraiment
contre
dire
Mark Hunt.
Quoi que ce soit. Contre ouais. Mark Hunt, pardon.
Mais parce qu'en fait, ils ont gagné, et là aussi, c'est très dur, et vous allez être, je pense, du même avis, c'est que Mark Hunt, en gros, a attaqué l'UFC parce que Brock Lesnar a été chargé, parce qu'il y a une exemption de la part de l'USADA pour combattre, pour affronter Mark Hunt. Mark Hunt perd le combat, et ensuite, bah, il attaque l'UFC pour dire, j'ai affronté un mec chargé. Le problème de ça, et c'est pour ça que moi, ça m'embête beaucoup pour Mark Hunt, parce que là, il doit beaucoup d'argent à l'UFC, c'est qu'il savait depuis le début ce qui allait se passer. Et malheureusement, hein, je pense en fait c'est typiquement le genre de truc, s'il avait gagné le combat, ça, ouais. Sa carrière aurait suivi ouais. son cours et on n'en parlait plus. Il a perdu le combat malheureusement pour lui, il s'est dit je vais attaquer l'UFC, mais le truc c'est que tout le monde savait que Brock Lesnar était exempt de test et le seul jour où il allait être testé, ça allait être le jour du combat, bah il a popé positif à la surprise d'absolument personne. Donc, donc c'est là où c'est un petit peu dur, je trouve, pour Mark Hunt parce qu'on comprend, et c'est vrai que pour quelqu'un qui est testé par l'USADA, c'est pas juste entre guillemets d'affronter un gars qui on sait arrive et qui est chargé, mais il le savait depuis le début, tout le monde le savait aussi, et pour lui, ce qui est dur aussi, et je sais qu'en disant ça, c'est pas... comment je me mets dans une situation compliquée peut-être, c'est que le fait d'affronter Brock Lesnar pour son retour, c'était aussi une superbe opportunité pour Mark Hunt. Donc c'est ça qui est un peu dur. Je veux dire, là par exemple Michael Chandler, qui lui doit se taper tous les tests, Connor, on sait pas comment il va arriver, on sait qu'il a pu bénéficier, on en a déjà parlé avec Big Rusty, s'il n'était pas sorti de l'USADA, peut-être qu'il n'aurait jamais pu revenir au sport parce que c'est une blessure absolument gravissime, mais en tout cas, Conor McGregor va continuer de tirer profit de tous les produits qu'il a eus, et on ne sait pas combien de temps, mais il a un avantage par rapport à Michael Chandler, sauf que Chandler, c'est une opportunité en or, et c'est pour ça qu'il attend depuis plus d'un an d'affronter Conor McGregor. Donc c'est là où, tu vois, moi je suis un peu balancé sur cette question-là, parce que pour lui, en termes de sponsoring, d'argent, d'exposition, tout ce que vous voulez, affronter Brock Lesnar ou affronter Conor McGregor, c'est quelque chose qui peut, je vais pas dire changer la vie, mais c'est hyper important pour les combattants en termes de carrière. Voilà.
Ouais.
Mais
Rusty, je crois qu'on est pas mal.
Je crois qu'on est pas mal aussi. Ciao! À ma sweet pea, moins 30% sur tout my sweet pea avec le code LASSEUR. Magnifique, magnifique. Big Rusty est venu charger avec les brownies, donc moins 30% minimum.
Ils sont bons,
en plus.
Ils sont vraiment trop bons.
Eh oui, avec le code. Oui. D'ailleurs, j'ai pas eu droit à mes brownies, mais bon, c'est un autre sujet qui ne vous intéresse pas. Et
je t'ai proposé les Kinder Bueno.
Il a donné les Kinder Bueno, Big Rusty. Il a donné les Kinder Bueno et ça.
Je t'en ramènerai tout à l'heure.
Oui, Kinder Bueno qui ont un petit goût de reviens-y, comme dirait l'autre. et Big Rusty. On a également Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, vous savez, on en parle très souvent d'Holy Moly, donc ils font thé glacé, boisson hydratation, boisson énergisante, c'est en poudre, c'est made in Allemagne, code là sur 5 pour votre première commande, moins 5€, et si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10% avec le code LASSEUR10, on se retrouve très vite, see ya!
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. on the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.